Ne manquez pas le balado « Relève-toi », présenté par le Regroupement des centres de prévention du suicide du Québec.
Dans l'épisode de cette semaine, Patrick Marsolais reçoit l'ex-patineuse de vitesse et médaillée olympique, Marianne Saint-Gelais.
Mes médailles, je me disais, ils m'apportent absolument rien. J'ai pas plus de vie, j'ai pas plus d'amoureux, j'ai pas plus de famille, j'ai pas plus de scolarité, j'ai absolument rien.
Comment ça va? Nous sommes toujours là, 24/7, partout au Québec. Appelle-nous. Au 1-866-APPEL. Ensemble, tissons l'espoir.
Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au balado Sortie de zone, quatrième saison, épisode 36 de ce vendredi 27 janvier 2023. Toujours avec les gars de la presse qui sont là. Alexandre Pratt qui est là. Salut Alexandre.
Salut Jérémy.
Nous avons Guillaume Lefrançois. Salut Guillaume.
Salut Jérémy.
Beau bonhomme, il est habillé propre, propre, propre.
Et j'ai mis ma plus belle blouse.
Il a mis sa blouse. Antoine
Rousseau. Mais il y a des bottes.
Il y a des bottes.
Il y a des bottes, oui. Problème.
Elle est où la chaussure? C'est ça la grande question.
Sur la poignée de porte.
À la maison.
À la maison.
Antoine Roussel qui est avec nous. Salut Antoine.
Salut les gars.
Messieurs. Bon, aujourd'hui, nous avons eu Cole Caulfield, que nous appelons à la maison Cole Caulfield, qui a fait un point de presse sur cette blessure à l'épaule. Je vais juste faire un petit résumé rapide là, des grandes lignes. Là. Ce qu'on comprend, c'est qu'il s'est blessé le 23 décembre à Dallas. Donc, on peut comprendre que c'est une dislocation de l'épaule qui s'est replacée naturellement. Et il y a eu un deuxième épisode. Deuxième épisode, c'était contre Nashville, début janvier, je crois, le 3. Encore une fois, c'est arrivé, ça s'est replacé, c'était un petit peu plus douloureux. Il y a eu trois opinions différentes pour arriver à l'opération pour l'épaule. On apprend également que c'est à l'épaule droite parce qu'il dit j'ai toujours ma main gauche de disponible. Fait que donc on fait le calcul, c'est l'épaule droite. C'est le même docteur que Josh Anderson qui fera l'opération, celui qui a fait l'opération à Josh Anderson. On a vérifié. Peter Millett du Colorado serait le docteur en question et on parle de trois mois. D'ici trois mois, on pourrait revenir, mais il me semble que c'était un peu plus long.
En fait, il a dit qu'il pourrait recommencer à tirer des rondelles dans trois mois. Mais quand on parle d'une convalescence de 6 à 7 mois, je pense qu'il y a une période entre ça qui est d'encaisser des contacts, là, tout ça. Oui. Donc, je pense que c'est trois mois pour une reprise d'entraînement plus léger.
Guillaume, mais je commence avec toi. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Qu'est-ce que tu as lu? Qu'est-ce que tu as compris du message de Cole Caulfield aujourd'hui?
Ben, je veux dire, premièrement, c'était la décision, je pense, la plus intelligente, surtout quand il parle, lui, d'un trois mois avant de recommencer à tirer des rondelles. Ça veut dire, dans le fond, que quand va arriver avril, mai, bon, bien sûr, il ira pas au championnat du monde là, au mois de mai, mais il va pouvoir avoir, je pense, un été d'entraînement relativement normal. Comme c'est une épaule, ça l'empêchera pas de patiner non plus, de toute façon, là, même s'il peut, même s'il sera pas peut-être à 100% pour son épaule. Donc, tu sais, là-dessus, en vue de l'an prochain, pour le moment, ça semble encourageant. Attendons que l'opération soit faite, bien sûr. Là. Des fois, on l'a su avec chez Weber, des fois, quand t'arrives sur la table d'opération, il y a des surprises, mais bon, disons qu'elle regardait aller, il a pas l'air d'un gars qui avait beaucoup de surprises dans lui. Ça l'a pas empêché d'être très bon avant sa blessure. Donc, tu sais, là-dessus, je pense que c'est peut-être la meilleure nouvelle là, pour le Canadien. Mais sinon, je disais, bon, c'est pas nécessairement non plus une surprise de savoir que lui a essayé de jouer là-dessus, de jouer blessé. Quand on pense à tout ce qu'il a connu, lui, depuis qu'il est arrivé chez le Canadien, de tous les joueurs qu'il a vu passer justement sur la table d'opération, il n'y a peut-être pas nécessairement une image positive de toutes ces procédures-là. Bien sûr, il y a le cas de Josh Anderson, il en a parlé, Anderson, donc on a parlé tantôt, c'est la même opération. Donc lui, oui, c'est un cas où ça a bien été, mais en même temps, je pense qu'il y a vu aussi une couple de cas de joueurs pour qui l'opération n'est pas nécessairement associée à des mesure.
Des joueurs plus âgés, on
exact.
Dira.
Plus
âgés.
Exact.
Mais peut-être avec plus de problèmes. Des fois, c'est comme en réno, hein, quand tu rouvres les murs, tu sais pas ce que tu trouves. Alexandre, ton résumé de ce point de presse.
Ouais, ben, en fait, il faut être quand même optimiste là, par rapport à son opération. Là. C'est quand même une opération qui est de routine là, pour un orthopédiste. Je devine que c'est une déchirure du labrum qu'il a eu. Ça n'a pas été précisé, mais c'est ce qu'avait eu Anderson. C'est aussi ce qu'a eu Zach Werenski. Il était question de Werenski tantôt. Le labrum, là, il y a une étude universitaire qui a été faite qui dit qu'un joueur de la Ligue nationale de hockey là, peut recommencer des activités après à peu près 4 mois et demi. Ça peut aller jusqu'à 7 et demi, là, le cas d'Anderson. Mais après ça, dans la population en général, une fois que tu te fais opérer au labrum, là, c'est 90% de chances que ça revienne exactement comme avant. Donc, c'est quand même un pronostic qui est possible. C'est pas une opération qui, normalement, devrait l'incapaciter tu sais, pour l'incapacité, je veux pas me ramasser comme dans les bêtisiers. En tout cas, c'est pas une blessure qui devrait lui nuire, mettons, normalement pour le reste de sa carrière. C'est quand même quelque chose qui est assez fréquent. On voit comment d'autres équipes ont géré ça cette saison. Donc, Zach Werenski et il y a aussi un joueur des Sharks qui a eu une blessure semblable. Le nom me revient pas tout de suite. Et les deux joueurs d'ex arrivé, l'équipe a décidé non, c'est fini pour la saison. Mais c'est arrivé tôt au début de la saison, genre octobre d'avant. Bon, c'est une blessure avec laquelle un joueur peut continuer de jouer. C'est juste que si l'axe de l'épaule va trop haut, ça fait très, très mal. Là. C'est genre 10 de douleur, puis après ça, t'as mal pendant 10 jours à peu près. T'sais. Fait que c'est peut-être ce qui est arrivé la deuxième fois, puis c'est peut-être là que Coffey a fait comme, OK, il y a quelque chose qui va pas. J'essaie d'évaluer qu'est-ce qui s'est passé parce qu'on n'a pas eu un timeline extrêmement précis. Être le Canadien, je vois aucun avantage à ce que Caulfield poursuive sa saison. Tu veux qu'il soit opéré le plus rapidement possible pour être en forme l'année prochaine. Du côté de Caulfield, il a demandé 3 expertises médicales. Ça veut dire que quelque part, il tenait probablement à jouer le plus longtemps possible.
Il n'était pas satisfait la première fois. Il voulait aller chercher plus d'opinions.
Clairement, le médecin, il n'a pas dit qu'est-ce qu'il voulait entendre la première puis la deuxième fois. Donc, peut-être c'est plus du côté de Caulfield qui a voulu continuer de jouer. Il était peut-être sur une bonne saison. Il est une année où son premier contrat vient à terme. Il aurait pu aller au match de soi. Il y a beaucoup de facteurs externes. Mais moi aussi, je suis d'avis que regarde, à un moment donné, quand t'es là, ça arrive deux fois, tu te déboîtes l'épaule, tu disloques l'épaule dans une très courte période d'une semaine. Là, il y a de la douleur. Je veux dire, c'est le temps de prendre ça au sérieux. La saison ne compte plus pour rien à partir d'ici. Là. Donc, c'était le moment là, de tirer la plaque.
Antoine, maintenant, question, comment vont tes épaules? Est-ce que tu as déjà eu quelque chose qui ressemblait à ça, toi?
Ben en fait, c'est drôle, ça m'a en fait quand on a abordé ce sujet, ça m'a rappelé plein de bons et plein de mauvais souvenirs. Puis on parlait d'expertise puis de se faire re-regarder par plusieurs experts. Pour ma part, mes épaules sont correctes, mais je me suis déchiré le ligament croisé antérieur de mon genou droit. Puis je pensais en fait pouvoir revenir. Puis c'est plus une plus grosse opération selon moi parce que ça affecte vraiment de la manière dont tu patines. Donc, si tu patines pas dans cette ligue-là, c'est compliqué. Puis, quand t'es à l'épaule, c'est loin du, c'est loin de ton patin. Fait que c'est moins dérangeant. Mais pour ma part, avec l'expérience que j'avais eue, c'est sûr que quand tu rencontres un chirurgien, que ça soit un Américain ou quoi que ce soit d'autre, eux autres, c'est sûr qu'ils veulent t'ouvrir puis ils veulent te réparer, mais ils laissent pas nécessairement le temps au corps de se régénérer. Fait qu'ils ont plus ils sont plus intrusifs finalement comparativement à peut-être à des docteurs canadiens. Mais ça c'est des concepts puis tout le monde s'en parle. Mais c'est pour ça des fois tu vas chercher plusieurs opinions parce que tu sais comment les Américains peuvent être. Puis c'est le fun d'avoir plusieurs avis d'experts qui se connaissent pas puis qui se sont pas concertés aussi. Donc je pense que ça l'a rassuré dans que c'était ce qu'il y avait de mieux pour sa carrière parce qu'au final c'est ta carrière la priorité. C'est sûr, on parle de la saison du Canadien, mais je pense qu'en tant que joueur, il faut que tu vois plus loin, il faut que tu vois en tant que la prochaine saison, même 2 ou 3 saisons après, est-ce que tu vas revenir? Puis dans mon cas, moi, ça m'avait pris 1 an et demi, même si y a des pronostics qui disent « Ah, tu vas être capable de jouer entre 7 et 9 mois ». Ouais, t'es capable de jouer, là. Mais la question, c'est « Es-tu capable de performer? » Puis ça, c'est pas forcément, ça vient pas nécessairement avec. Puis moi, j'ai appris à la dure. J'ai pas performé tout de suite quand je suis revenu. Fait que j'en garde un souvenir un petit peu mitigé de mon opération.
Mmh. Je suis curieux de savoir, Antoine, en passant, tu sais, t'évoques les deuxièmes opinions médicales. Ça, c'est une chose qui, tu sais, ça fait partie de la convention collective quand même de la Ligue nationale. T'sais, c'est un droit qui est prévu dans la convention. J'aimerais juste savoir c'est quoi, si on veut, l'importance de ça pour les joueurs dans la culture des joueurs, là, ce droit-là. Puis si ça, tu sais, si toi, par ton expérience, ça crée une espèce de malaise, là, si on veut, dans l'organisation quand un joueur fait comme, regarde, ce que le docteur de l'équipe me dit, là, je suis pas d'accord, je vais aller voir ailleurs.
Ben, je trouve que c'est tellement une bonne question ce que tu dis là, parce que c'est vrai que ça, t'as l'impression que ça cause de la friction un petit peu quand même. Parce que, tu sais, ils se concertent pas, mais on dirait que ça dépend, parce que il y a des médecins, souvent, ils vont favoriser l'équipe, puis pas forcément le joueur. Puis des fois, c'est ça que c'est important pour un médecin d'être, tu sais, un petit peu comme le système de justice, il est séparé du système de gouvernance au Québec. Ben, faut que ça soit un peu la même affaire dans une équipe de hockey, parce que sans ça, t'as de l'ingérence un petit peu, puis c'est pas pour le meilleur du joueur. Donc, pourquoi toi, en tant que joueur, tu fais ça? C'est pour savoir ce qu'il y a de mieux pour toi, puis tu t'en fous de l'organisation, ce que l'organisation peut penser, puis ça écorche des égos ou pas, mais ça en écorche un petit peu, je pense, quand même. Mais écoute, c'est ton droit, puis c'est à ton agent de prendre les vagues pour ça. Là. C'est à ton agence. C'est pour ça que tu le payes aussi, ton agence, pour que quand tu as des moments de même, là, ben, il aille au bat pour toi. Puis toi, en tant que joueur, ben, tu dis, c'est mon agent. Là, il veut le mieux pour moi. C'est mon agent. Ben, l'agent, les gars, il a le dollar des fois.
Ah oui? Alexandre, je vais t'entendre dans quelques instants, mais juste avant, je vais poursuivre entrevue avec Antoine Roussel. Écoute, Antoine, imagine avec tout ça, t'as l'épaule, puis t'es en négociation pour une prolongation de contrat. Est-ce que ça change quelque chose dans le processus de décision?
Ben, on parlait de l'agent, puis ben, c'est sûr qu'en tant que joueur, le plus, tu sais, tu veux pas être blessé. Tu veux pas arriver dans un contrat blessé parce que ça joue en ta défaveur. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont jouer blessés ou ils vont essayer de... à moins que ça affecte vraiment tes performances, faut que tu essaies de jouer le 82 matchs au complet. Comme ça, t'amènes le bateau au bon port, puis là, tu dis, garde, moi, je suis un joueur qui joue 82 matchs, puis c'est pas seulement 60. Fait que tu vas pas me payer seulement pour 60 matchs, tu vas m'en payer pour 80, pas comparativement à d'autres gars qui en font 50 par année. Là. Puis s'il y en a, là, si tu analyses convenablement, il y a beaucoup de joueurs qui jouent jamais vraiment le 82 matchs ou entre 70 et 80. Il y en a qui, c'est 60. Puis dans mes dernières années, moi, c'était 60 matchs quasiment là, à cause de blessures, de si... Gallagher, même affaire, ça a un impact sur ta carrière. Mais oui, sur ton contrat, ça t'influe. C'est sûr que tu l'as en arrière de la tête toute l'année. Tu veux jouer au maximum, même si tu as des blessures, même si tu as des petits bobos à la tête, là, tu es là, il faut jouer pareil.
C'est qui le coéquipier que tu as eu, Antoine, là, qui a joué avec le plus de blessures pour se rendre au bout de l'année avant de se faire opérer là, parce que justement, il tenait à avoir des statistiques ou garder son statut?
Ben, c'est drôle ce que tu me demandes parce que l'année dernière, Andrew Ladd, dans le fond, lui, il revenait de l'enfer quasiment. Il était allé avec les Islanders. Il y avait une bonne saison. Il était pas une mauvaise saison, mais il fonctionnait quand même relativement bien. Lou Lamoriello décide que ça va moins bien, il descend dans la Ligue américaine. Puis à partir de là, il y a deux ans où il trime, il broie du noir pendant longtemps. Puis il est dans la Ligue américaine, il joue pas, il joue un peu. Il est vraiment exclu, puis il lui restait trois ou quatre ans de contrat. Fait qu'il essayait vraiment de le faire abandonner, puis de le faire dire, oh, je vais prendre ma retraite. Fait que finalement, il se fait échanger en Arizona. Puis quand il est arrivé en Arizona, ben, il était en forme, mais tu voyais que c'était un gars qui était usé quand même. Là, quand tu arrives à 36 ans, t'en as moins devant toi que derrière. Puis écoute, il restait peut-être 10-15 matchs avant qu'il joue son millième match l'année passée. Puis il s'est déchiré le genou. Écoute, ce que je l'ai vu faire pour atteindre son 1000 matchs, pour jouer ces 15 matchs-là, c'est incommensurable pour vrai. Non? À chaque fois quand je repense à ce moment-là, puis à quel point il traitait son corps, il avait fait descendre un gars de Long Island qui restait chez eux pendant un mois pour le traiter après chaque pratique. D'ailleurs, mais il pratiquait mais quasiment plus, il faisait juste les matchs. Mais lui, son objectif, là, c'était vraiment de jouer le 1000 matchs. Puis je comprends pourquoi. Là, quand t'es si proche du but, là, comme on dit, t'absorbes la douleur, puis tu serres les dents, puis tu fonces. Là. Ben, c'est ça qu'il a fait. Mais c'est sûr que ben là, il est encore en mode mon genou, il me fait mal. Là. Mais ouais. Si tu vois, il y a des joueurs qui sont capables de passer outre ça, mais c'est sûr qu'à long terme, ben, c'est pas idéal.
Non, moi, après tout ça, j'ai le goût d'aller voter pour Andrew Ladd pour le Masterton. Tout de suite, là, voyons donc, c'est bien incroyable.
C'est incroyable quand même. Hein, c'est incroyable.
Je vous dis, là, il sortait des seringues d'enflure, là, tu sais, de, je sais pas comment, de plasma ou peu importe, c'est ce qui fait gonfler ton,
okay,
ton
okay.
genou. Là. Il tirait.
Il faisait des ponctions, en fait, au genou.
Des ponctions pour sortir le liquide, pour que ça respire. Enfin, je te dis, là, c'est il voulait vraiment son 1000 matchs. Il l'a eu, puis il le mérite. Là. Je pense que pour amener ça jusqu'à la ligne finish, là, il a fait. Il a tout fait.
D'ailleurs, aujourd'hui, Caulfield, en point de presse, a dit, tu sais, si on s'en allait en série de fin de saison, c'est sûr que je suis là quand même. Donc, on le sait, les gars sont durs à leur corps pour être capables de compétitionner. Là, c'est différent avec le Canadien. Il ne va pas participer aux séries de fin de saison. Donc, on peut comprendre qu'on prend de l'avance un peu pour être prêt pour la saison prochaine. Un autre point.
Mais c'est oui. Juste pour finir là-dessus, c'est là, par exemple, que c'est important d'avoir une direction qui est proactive sur des cas comme ça. Puis, spécifiquement dans le cas de Caulfield, qui est un joueur en année de contrat, justement. Je ne sais pas si ça a été dit, parce que ça a été évoqué dans une question, mais c'est pas clair qu'est-ce qui s'est dit entre Caulfield et l'équipe. Mais ça pourrait être un cas où le DG peut dire, regarde, fais-toi opérer, préoccupe-toi pas du contrat. Là. On a une idée de ça va être quoi. Puis,
on connaît la tendance.
On connaît la tendance, on connaît ton potentiel. Puis, c'est là que la direction peut faire une différence dans la prise de décision aussi, puis encourager, faire en sorte que le joueur soit justement...
Oui, très bien.
C'est pour ça que j'aurais apprécié aujourd'hui que le directeur général soit assis à côté de Caulfield. Mm-hmm. Tu sais, dire, regarde, fais-toi-en pas, le kit, regarde, oui, nous, tu veux être avec nous, on veut que tu sois là, on veut s'entendre.
On croit en ton potentiel.
Je sais pas, j'aurais aimé avoir quelque chose d'un petit peu plus formel que juste le jeune qui est là.
C'est drôle, hein, parce que quand Hughes a parlé il y a deux semaines à peu près, il y a deux mercredis, il a été question de la transparence de l'organisation. Il dit, tu sais, je vais être transparent, sauf des négociations de contrat.
Bon, il voulait pas se pointer pour pas se faire parler du contrat, clairement. Il y a moyen de ne pas répondre nécessairement, mais de montrer ton appui. En tout cas, bref, c'est moi qui, Papa Gâteau, qui parle un petit peu. Juste dire, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a appris aussi là-dedans, c'est que Caulfield, c'est un gars passionné. Souvenez-vous, Martin Saint-Louis a dit, c'est pas juste ce qu'il apporte sur la glace qu'il va falloir remplacer, mais c'est l'énergie qu'il amenait dans le vestiaire, à l'extérieur de la patinoire. On a appris que le Canadien a caché ses bâtons et ses patins parce qu'on voulait pas qu'il embarque sa glace, on voulait pas qu'il lance de rondelles. Et aujourd'hui, l'entraînement, je sais pas, vous avez vu les images.
Le chapeau, la casquette.
Il y avait une méga casquette, un chapeau démesuré sur la tête. Et il prenait le bâton de Jack High, lançait de la gauche avec le bâton. Écoute, là, c'est aujourd'hui qu'il y a le point de presse. T'as une bébite, Caulfield, Guillaume. Là.
Oh oui, absolument, absolument. Puis c'est exact, cet enthousiasme-là, il est dur à répliquer. Puis tu sais, il est jeune en plus. Puis tu sais, quand on regarde les autres jeunes du Canadien, tu sais, je veux dire, Jack High, c'est pas ce genre-là, là, quand même plus tranquille. Jordan Harris aussi, gars qui prend quand même son trou, peut-être plus cérébral. Fait que, tu sais, il y a une personnalité unique qui, effectivement, devrait être remplacée. Tu sais, que Kirby Doc, c'est pas un gars qui démontre beaucoup d'émotions non plus. Même chose pour Suzuki, qui est le capitaine. Donc, c'est ça, il y avait cet ingrédient-là. Mais regardez, jusqu'ici, les deux matchs, le Canadien a joué sans lui. Deux matchs, trois matchs, j'ai perdu le
deux.
Compte. Deux matchs. Ça là-dessus, ça n'a pas paru. Je veux dire, le niveau d'émotion, d'énergie était là quand même. Donc, l'équipe a quand même été chercher quelque chose, mais ça reste qu'au quotidien. Je pense que c'est le genre d'enthousiasme qui fait du bien dans un vestiaire. D'ailleurs, tu sais, les gens qui suivent le Canadien sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram, souvent l'équipe en avant-match va montrer des petites scènes là, dans le vestiaire. C'est pas grand-chose, là, des 15-20 secondes, des joueurs qui mettent du ruban sur le bâton, des choses comme ça. Puis on dirait que Caulfield est toujours au centre de l'action. C'est tout dans lui qui
est en train de rire,
niaiser avec les autres ou de se faire niaiser lui-même. C'est sûr qu'il y avait quelque chose là.
Il y en a d'autres qui ont
c'est
pris
une
le
valeur. Excusez-moi, mais je voudrais rajouter là-dessus. C'est une valeur, ça, les gars. Tu sais, quand on parle de joueur qui a une valeur intrinsèque, puis qu'il fait tous les petits détails, il y a un je ne sais quoi. Mais ça aussi, ça a une valeur au sein d'une équipe, puis ça se paye, ça se monnaie, ça. Le fait que ça soit toi l'énergie, la boule d'énergie de l'équipe. Ben ça, une équipe, elle valorise ça généralement, puis t'es généralement récompensé pour ce comportement-là. Donc, je pense aux jeunes qui peuvent nous écouter. Ben, généralement, quand t'es de bonne humeur puis que t'as toujours de l'énergie, ben ça fait en sorte que le monde veut être autour de toi. Puis si le monde veut être autour de toi, ben ça te permet de continuer à avancer dans ta progression.
Antoine, t'étais quel genre, toi? T'étais-tu le grelot ou t'étais un gars renfermé, concentré, prêt comme Rocky pour aller à un match?
Quand j'étais jeune, j'étais vraiment concentré avant un match. Je mettais ma musique, puis ça me blastait dans les oreilles. Mais j'ai toujours été un gars d'énergie dans le vestiaire, dans les pratiques, avoir du plaisir. Moi, mon mantra, c'était si j'ai du plaisir, je vais performer. Donc puis ça m'entraînait à m'entraîner justement. Donc, je faisais en sorte que ça déborde, là, puis ça a débordé souvent.
Ben justement, il y en a un qui a du plaisir présentement, c'est Raphaël Harvey-Pinard, qui depuis son retour avec le Canadien marque hier ses deux buts pour lui. rempli d'énergie. Alexandre, je veux savoir, est-ce que tu es convaincu maintenant de Raphaël Harvey-Pinard?
Oui, oui, tout à fait. Puis ce que j'aime en fait de ce qui se passe présentement, donc ça fait deux matchs que Caulfield ne joue pas, Saint-Louis avait lancé le message de, il va falloir remplacer son énergie, tu sais. Et dès la première journée, Harvey-Pinard, il a dit, ben moi, je vois une opportunité là-dedans. T'sais, je disais, c'est plate ce qui arrive à Caulfield, mais c'est peut-être une opportunité pour moi. Et il est en train de vraiment de profiter de cette rare occasion-là là, d'être mis en valeur. Hier, il a joué en infériorité numérique, en supériorité numérique à la fin du match à 4 contre 3 en prolongation. Il a fait compléter un tour du chapeau. Sa ligne amène de l'énergie. Puis, en fait, c'est ce qui est le fun depuis deux matchs. On retrouve un petit peu le Canadien de la fin de la saison dernière où il se passait toujours quelque chose. Où le Canadien perdait, mais il y avait beaucoup d'énergie. Et cette énergie-là n'est pas amenée par les vétérans présentement. Puis tu sais, en tout respect, là, mais...
C'est pas Dadonov qui a
fait
ça.
Non, mais même, je vais aller... c'est pas Suzuki, là, non, qui présentement, là, avec le sparkle non, sur la glace.
C'est ce trio-là, puis c'est Dak.
C'est ça, exactement. C'est donc, mais tu sais que ce trio-là, qui est fait en fait de... Il faut que je trouve le mot en français, de négliger, et qui vraiment est en train de faire sa marque, voit l'occasion se présenter de peut-être rester avec le Canadien jusqu'à la fin de la saison s'il y a beaucoup de blessés, ou en tout cas de simplement profiter, de, dans le cas de Bezzé, de peut-être une dernière chance, même peut-être de Pezzetta d'une dernière chance dans la Ligue nationale. C'est le fun de les voir avec tout cet entrain-là, toute cette énergie-là. Écoute, j'ai réécouté le match ce matin. Leur deuxième période, elle était exceptionnelle.
Ils étaient toujours dans le territoire offensif. Non, mais je
sais, ils jouaient comme un premier trio. Il y en a eu des belles occasions de marquer. Ils ont marqué deux buts, je pense, ce trio hier. Mais ouais. ils auraient pu, je veux dire, en deuxième période, en marquer deux autres plutôt facilement. Là. Donc, moi, je suis très enthousiaste de ce que je vois. Puis, tu sais, Harvey Pinard, il n'y a pas tant de joueurs de sport. Il n'y a pas tant de joueurs étincelles que ça dans l'alignement. Tu sais, oui, il y a Gallagher, là, mais enlève Gallagher présentement dans
il y a Gallagher quand il est là.
Absolument. Oui, quand il est là, c'est ça. Mais le Canadien, tu sais, on va dire Jacquin, mais je parle en attaque. Il n'y a pas tant de joueurs qui ont son profil. Fait que quand tu as un profil unique dans une équipe comme ça, tu es jeune, que tu es en santé, que tu es capable de marquer quelques buts, il y a quand même autant de buts qu'Armia à date en genre 40 matchs de moins. Là. Il y a une place pour toi dans l'alignement. Mm. Puis moi, je pense qu'on va le voir régulièrement d'ici, même les prochaines années.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que son attaque l'a produit à force égale, puis même en désavantage numérique. Donc, tu sais, pas d'avantage. On l'a dit là, hier, il y a eu la présence en avantage numérique en prolongation parce que Saint-Louis a été au feeling.
Ça a failli marcher, là.
Ça a failli marcher en plus. Mais je veux dire, sinon, c'est ça, gagner sa place aussi. Je veux dire, c'est pas arriver puis te faire donner tout de suite de l'avantage numérique. C'est arrive, commence sur le quatrième trio, puis là, ben, oh, montre-moi quelque chose, mais c'est ça qui est en train de montrer.
Faut rendre crédit à Belzile et à Pezzetta aussi, qui ont joué un gros match avec
Belzile. D'accord, mais il faut la mettre dedans après. Cette année, les gars l'ont pas mis dedans.
Puis après le match, c'est très, très rare que je fais ça, mais après le match, j'ai posé à Derek Lalonde. Donc, c'est très rare que je pose une question à l'entraîneur de l'autre équipe au sujet du Canadien. J'aime mieux, puis les entraîneurs aiment mieux parler de leur propre équipe, mais j'ai demandé qu'est-ce que tu connaissais du quatrième trio et pourquoi tu penses qu'ils ont connu un match comme ça. Il a dit je connaissais rien du tout de leur quatrième trio et ça a été le meilleur trio ça a de là sur la soirée des deux
des deux côtés.
Puis il disait ça revient à l'effort au sens de la compétition, à volonté. Malgré le talent dans les deux équipes, quand ce trio-là est le meilleur, ça montre que tout ce que la détermination peut faire. Donc, c'est vraiment rare qu'un entraîneur se lance comme ça. Surtout, c'est facile. Si tu après un match contre les Pingouins puis tu parles au coach de Sidney Crosby, c'est correct, là, ils vont le vanter, mais pour des joueurs de soutien comme ça, c'est quand même rare d'entendre ça. Donc, moi, ça m'a quand même frappé.
C'est normal, c'est un gars du Saguenay, Antoine. Qu'est-ce que tu veux? Non. Raphaël Harvey-Pinard, c'est un gars du Saguenay.
Écoute, puis même pendant la pandémie, en fait, je me suis entraîné avec au Saguenay. Il venait s'entraîner avec moi, puis c'est tellement un compétiteur. Puis on s'était installé à ma cabane à sucre parce qu'il y avait de l'espace, puis on avait été capable d'installer une toile pour pratiquer nos lancers. Puis on faisait des compétitions de 20 shots à celui qui le met le plus dans le top net. Il me battait à toutes les fois. Je te jure. À un moment donné, je commençais à être tanné, je ne l'ai plus invité.
je l'ai droppé. Bang!
c'est pas vrai. Mais c'est ça, Raphaël. C'est un gars qui travaille fort. Il a pas peur de personne, mais il a pas peur de ce qui s'en vient. Puis ça se voit dans son jeu. Il est prêt à tout. Puis pour de vrai, là, j'espère vraiment qu'il est là jusqu'à la fin de l'année, même s'il y a des retours de blessés. Là, je trouve que, tu sais, je veux pas être trop enthousiaste parce que, tu sais, des fois, des matchs de trois points, t'en as pas souvent, généralement, sur un quatrième trio. Fait que c'est le fun d'en profiter, de prendre la bouffée d'air. Mais faut peut-être pas s'attendre à ça à chaque match. mais son implication, il va l'avoir à chaque match. Ça, on peut en être certain. Puis c'est ça qui le différencie, comme vous l'avez dit. C'est son niveau d'énergie. Il entraîne tout le monde. Puis lui et Belzile, même Belzile, je le voyais hier sur le banc, il parlait à tout le monde. On aurait dit que c'était le capitaine de cette équipe-là. Ça avait, c'est drôle, mais c'est drôle à dire, mais il agissait comme ça. Tu sais, il y a aucune... Ben, de toute façon, il y a tellement de gars qu'il connaît qui ont joué avec lui dans la Ligue américaine. Donc, il se sent à l'aise. Puis Belzile, pour moi, c'est tout qu'un joueur de hockey. Puis quand je vois deux joueurs aussi déterminés et aussi impliqués, je m'en fous s'il y en a qui reviennent de blessures. Ils ont montré assez en très peu de temps qu'ils peuvent rester là. Il va juste falloir qu'ils travaillent la constance, qu'ils continuent à chaque match de montrer ça. Puis les autres rentreront plus dans l'alignement. Tu peux pas sortir ces deux gars-là. Des gars qui ont faim de même. Tu sais, ça envoie un mauvais message de ton organisation si tu fais ça. Parce que à un moment donné, si tu gagnes ta place, tu gagnes ta place. T'as passé quelqu'un. Quand t'es pas là, ben t'as tort. Quand t'es blessé, ben généralement c'est pas nécessairement de ta faute, mais quand les absents ils ont toujours tort. Fait que là, ces deux gars-là travaillent aussi fort. Pour moi, là, s'il y a d'autres gars qui reviennent, ils rentrent pas dans l'alignement.
Non, clairement, Martin Saint-Louis apprécie beaucoup le travail du quatrième trio. Puis savez-vous quoi? Là, on va faire une courte pause, mais au retour, il y a quelque chose qui a été raconté hier après le match. Martin Saint-Louis parlait de Pezzetta, puis il a dit, tu sais, le hockey nord-sud, c'est plus facile pour lui. Tu sais, il est plus en mesure de se justifier dans du hockey nord-sud. Moi, je regarde le hockey que le Canadien a offert, le S-West, là. Par moment, je me dis, ça serait peut-être mieux de jouer un petit peu plus nord-sud. C'est le fun S-West, mais nord-sud, l'impression que c'est ça, le hockey, qui est plus facile. On en parle au retour. Restez là.
Ne manquez pas le balado Relève-toi, présenté par le Regroupement des centres de prévention du suicide du Québec.
Dans l'épisode de cette semaine, Patrick Marsolais reçoit l'ex-patineuse de vitesse et médaillée olympique, Marianne Saint-Gelais.
Mes médailles, je me disais, ils m'apportent absolument rien. J'ai pas plus de vie, j'ai pas plus d'amoureux, j'ai pas plus de famille, j'ai pas plus de scolarité, j'ai absolument rien.
Comment ça va? Nous sommes toujours là, 24/7, partout au Québec. Appelle-nous. Au 1-866-APPEL. Ensemble, tissons l'espoir.
On est de retour au balado Sortie de zone, saison 4, épisode 36. Alexandre Pratt, Guillaume Lefrançois et Antoine Roussel. Messieurs, hier, après cette défaite du Canadien, 4-3 en prolongation face aux Red Wings de Détroit, où on a vu le quatrième trio être le meilleur trio des deux côtés, des deux formations. Guillaume, tu en parlais. D'ailleurs, l'entraîneur des Red Wings l'a mentionné. Il y a Martin Saint-Louis qui a parlé de Michael Pezzetta en disant « Ce gars-là joue mieux dans du hockey nord-sud. » Là, on voit les autres trios plus talentueux, ça zigzague à gauche, à droite, c'est amène ta game dans ma game, tandis que là, on est dans le quatrième trio, nord-sud, basic, échec avant, on reste dans le territoire offensif, et ça fonctionne. Est-ce que c'est pas ça qu'on devrait faire un peu chez les Canadiens, lâcher un petit peu le fancy et jouer nord-sud, Guillaume?
Ben, oui, par principe, oui, mais en même temps, je pense que n'importe quel entraîneur, tu dois t'ajuster aussi à ce que t'as dans, à ton effectif. Puis des joueurs purement nord-sud, comme justement Pezzetta, ben, il n'y en a pas des tonnes non plus dans l'attaque du Canadien. Je pense que Josh Anderson, dans les joueurs de top 9, disons, ben, il y a Gallagher, bien sûr, mais sinon, tu sais, Josh Anderson est peut-être le meilleur exemple du type de joueur comme ça. Mais sinon, tu sais, un Kirby Dach, c'est pas du hockey nord-sud, c'est pas ça sa force. Je veux dire, il y a un niveau de talent quand même qui permet.
Il y avait de l'air nord-sud en début de deuxième hier, là,
oui, il se promène souvent sur le long de la ligne bleue avec la
rondelle. Ah non, c'est sûr. Excuse-moi, je t'ai coupé.
Non, c'est correct. Non, mais ça, mais tout ça pour dire que c'est ça, tu sais, dans sa formation, dans ses forces, plus particulièrement à l'attaque, ben, c'est ça qu'il y a aussi Saint-Louis. Puis même à la défense, un Michael Matheson, c'en est un autre aussi qui est capable, qui est super rapide, mais qui est capable là, de naviguer. Donc, je disais, oui, là, qui n'en seul aucun doute.
Hey, écoute, juste, je te rappelle, c'est Columbus. Columbus, ils mettent des statistiques avancées après le match, OK? Et Michael Matheson était celui qui avait le plus grand nombre de la plus grande distance parcourue pendant le match, 3,4 km. T'es défenseur, c'est pas parce que tu freines souvent, là. 3,4 km de zigzag sur la glace, quand même.
Oui.
C'est impressionnant.
C'est impressionnant, mais tes défenseurs, écoute, moi j'ai dit OK, le gars il tourne.
Mais hier, il paraissait bien pour de vrai, Matheson. Il était souvent dans la contre-attaque, il faisait des bonnes passes, il était souvent impliqué dans la relance. Puis c'était impressionnant de voir sa qualité de patin. Des fois, on l'oublie à quel point il est rapide. Mais hier, ça sautait aux yeux. Là. Il était vraiment au-dessus de tout le monde là, à ce niveau-là. C'est sûr que à cette vitesse-là, des fois, la prise de décision elle peut être un peu plus compliquée. Mais vraiment, il y a un coup de patin exceptionnel.
Antoine, est-ce que tu préfères le Nord-Sud ou l'Est-Ouest, toi?
Ben, j'aurais aimé ça être Est-Ouest, mais j'étais plus un gars de Nord-Sud, plus direct.
Ouais, ben écoute, on a vu que le direct fonctionne par moment. Hier, en tout cas, ça a fonctionné pour le quatrième trio. Parlons de Kirby Dack maintenant, Alexandre. Kirby Dack qui est souple avec ses passes et solide avec ses points. Ça, j'étais fier quand je l'ai écrit. Et Saint-Louis dit « I love it ». En fait, faut juste dire que la passe qu'il a fait à Harvey Pinard en désavantage numérique, wow. Une saucer pass, tu sais, qui fait juste soulever, tombe à plat sur la palette.
Le Canadien a mis sur Twitter aujourd'hui un ralenti de ça avec un angle qui est filmé par les gens des réseaux sociaux là, qui sont postés sur le bord de la bande, là, pas un angle de télévision. Et la passe, la rondelle, là, la rondelle, tu la vois là, juste rester à plat tout le long, juste comme il faut, c'était fabuleux. Puis bien sûr, ça prend après ça Harvey Pinard qui fait la réception là, comme il faut, mais c'était vraiment magique.
Un caviar, comme on dit.
Oui, un caviar. Donc, une passe soulevée parfaite à Harvey Pinard. Oui. Puis le gars arrive en début de deuxième période. Fatling, laisse tomber les gants. Rince notre ami des Red Wings de Détroit. Comment tu trouves le match de Kirby Dack, Alexandre?
Ben là, y a
est-ce que tu love it, toi aussi?
Oui, non, il y a de quoi être enthousiaste. Moi, je suis un fan des bagarres, vous le savez, mais il y a de quoi être enthousiaste.
Ben, j'ai pas regardé, moi, quand c'est arrivé, j'ai regardé ailleurs. Je
non, mais il y a de quoi être enthousiaste parce que moi, je faisais partie des sceptiques au début de la saison quand ils l'ont acquis. Ces sceptiques étaient pas bonnes l'année dernière. Le Canadien insistait pour le faire jouer au centre alors que c'était le pire de la Ligue dans les 5 dernières années là, pour le pourcentage de réussite au mes enjeux. Et tu sais, il revenait aussi d'une grosse blessure. Fait, il y avait quand même beaucoup de drapeaux rouges. C'est-à-dire, puis il est en train de les abaisser un à un. Je trouve qu'il est de plus en plus convaincant. Moi, je l'avais beaucoup aimé dans un match hors concours, 15 jours pour équipe Canada, juste avant qu'il se blesse là, au championnat du monde. Je l'avais vu dans un match hors concours, il avait été dominant. Je sais pas, il avait dû faire 5-6 points. Puis je m'étais dit, écoute, il va être incroyable dans la Ligue nationale. Puis je commence à revoir, là, mettons, depuis 2 semaines, ce type de joueur-là, tu sais, très offensif, là, qui est capable justement de tricoter, qui est capable de passer. Ce qu'on voyait, je trouve, moins en début de saison, honnêtement. Il y a eu des bons moments avec Caulfield et Suzuki, mais c'est sûr que là, quand ça arrive et que tu joues sur le premier trio, tu te demandes toujours, tu sais, est-ce que c'est lui qui rendait les deux autres meilleurs ou, tu sais, il y a plus de points parce qu'il joue avec Suzuki et Caulfield. Alors que là, présentement, il est un petit peu autonome. Là, il est le meilleur joueur présentement sur son trio. Là.
Dans les derniers temps que les trois y ont joué ensemble, moi, je trouvais que c'était de plus en plus souvent Dak qui... Non, je trouvais que c'était plus Dak qui alimentait le trio exactement, qui le faisait fonctionner. L'autre chose, tu parlais des mises au jeu, mais ça me rappelle tantôt, mais ça s'améliore. Ouais. En 6 matchs, depuis la blessure à Jake Evans, donc depuis son retour au centre à temps plein, ben, il était à 47%. Donc, tu sais, c'est pas...
Il était à 36, je pense, au 1er janvier.
C'est ça. Donc, tu sais, c'est pas Yannick Perreault, mais c'est quand même très tolérant. À 47%, je veux dire.
Il y a quand même une grosse différence entre commencer, tu sais, mettons, 5 fois sur 10 avec la rondelle, puis 3 fois sur 10. Puis moi, c'est ce que je trouvais qui était problématique en l'essayant au centre. Puis quand t'as 30%, c'est-à-dire 7 fois sur 10, tu joues défensivement pour probablement les 15 premières secondes du shift. Là, c'est difficile un petit peu. Alors, s'il peut améliorer ce point-là, il va devenir très efficace.
Oui, Antoine, vas-y, on t'écoute.
Moi, j'ai joué avec un joueur, Adam Godet. Il gagnait jamais ses mises en jeu. Il y a rien de plus frustrant que ça, là. Pour de vrai, là. Moi, je jouais mes routes dans le fond que j'utilisais, là. Je jouais la perte de rondelle à chaque fois.
Quand il a gagné une,
maudit que j'avais l'air moins intelligent parce que j'avais plus la bonne route, mais fallait qu'on n'avait pas le choix parce que la moitié du match, on passait à courir après la rondelle. Puis ça, mentalement, c'est tellement drainant. Fait que qu'il soit capable d'avoir amélioré ça, c'est vraiment impressionnant. Moi, ce qui me marque vraiment quand je pense à Kirby Dack, c'est un, son engagement, parce que tu sais, on a dit qu'il s'est battu hier, mais c'est pas juste ça qu'il fait. Mais il s'en est pas laissé imposer, puis il envoie un message, je trouve, assez puissant, c'est que un, il a peur de rien. Deux, tu peux essayer de lui enlever la rondelle, impossible. Il y a tellement un long bâton qui fait en sorte qu'il est capable de la protéger mieux que. Sincèrement, il doit être dans le top 10 de la Ligue pour la protection de rondelles. Le premier, c'est Draisaitl, selon moi. Deux, peut-être David Perron. Puis après ça, je vous laisse remplir le...
Yoel Armia
en fond de territoire.
Non, il fait partie du top 30, peut-être. Okay. Mais c'est, pour moi, il est vraiment impressionnant là-dedans. Puis il est capable de jouer tout seul un peu. T'sais. Il n'y a pas besoin de 150 joueurs avec lui pour être performant. Puis c'est, ça prouve que ça a été un maudit bel échange. Puis je sais pas si je serais confiant d'être les Blackhawks en ce moment.
Ouais, mais ce qui est dommage avec Kirby Dach, c'est lorsqu'il laisse tomber les gants, veut pas avec les casques. Tu sais, ça prend juste un coup de poing, tu te casses une fracture d'une jointure, c'est pas trop long. Il y a tellement de blessés chez les Canadiens. C'est dommage, ouais, on doit prendre la chance, mais il me semble que c'est pas à lui à faire ça.
Il était pas à l'entraînement aujourd'hui. Regardez, ça peut être n'importe quoi, là, mais quand même, ça vaut la peine d'être souligné.
Antoine, c'est quand même, tu sais, c'est un joueur qui est important pour toi, t'as tellement de blessés, tu veux pas qu'il se blesse.
Ah non, c'est sûr que, tu sais, je pense que tu peux lui parler, mais en même temps, si tu fais un slow foot à quelqu'un, ça veut dire tu le balayes par en arrière, mais à un moment donné, c'est sûr que l'autre équipe, ils vont venir te chercher, c'est automatique. Si tu fais tu joues tranquillement, il y a jamais personne qui va te voir, tu seras moins remarqué, mais si tu fais des choses qui sont réprimandables, ben là, faut que tu répondes de tes actes, hein.
Mm-hmm. Ah, clairement, c'est sûr. Et on a vu que Kirby Dach est capable, lui, de s'organiser avec sa propre discipline sur la patinoire. Bon, on a parlé des blessés. Je voulais vous parler de Sean Monahan parce qu'hier, Pierre Lebrun, sur les ondes d'RDS, a dit l'Avalanche Colorado serait intéressé au service de Monahan. Guillaume, avant qu'on commence le balado, me dit fais attention parce que Monahan n'était pas à l'entraînement encore aujourd'hui. Peut-être juste nous donner un petit compte-rendu de ça.
Simplement que ça fait deux... en tout cas, hier et aujourd'hui, il n'était pas là. Puis, tu sais, hier, déjà là, c'était inhabituel parce que depuis quelques jours, il faisait les entraînements de matin de match avec l'équipe. Okay. Toujours avec un chandail bleu marine, donc pas le droit au contact encore, mais il était quand même là. Puis là, ben là, c'est ça, ça fait au moins deux jours, si c'est pas trois, qu'il n'a pas participé. Donc, c'est une situation à surveiller. Mais
toujours au pied, hein, ça semble ça.
C'est selon toute vraisemblance, c'est ça. Mais je veux dire, en même temps, oublions pas qu'il y avait aussi un historique de blessure à la hanche. Donc, est-ce que ça s'est rajouté? J'ai absolument aucune idée, mais je veux dire, en tout cas, il y a quelque chose qui cloche et, je veux dire, la date limite des transactions est dans quoi, 5 semaines?
Ouais.
Donc, ça commence à manquer de temps pour qu'une équipe parie, prenne un pari sur lui. Là.
À des fins de discussion, parlons d'un retour progressif. Mettons que ça va bien, il se replace. Selon vous, est-ce que Sean Monahan, c'est le premier à quitter le Canadien quand on va ouvrir les valves là, pour dire il y a transaction?
Non.
Non?
Non, je pense pas que c'est le premier qui part parce que l'équipe qui va vouloir l'acquérir va vouloir avoir certaines, il va vouloir avoir des certitudes. Mm-hmm. Moi, je le vois plus comme un joueur qui va partir probablement à la date limite parce que tu veux un échantillon qui soit quand même assez grand, surtout si le Canadien est gourmand en retour. Là, je pense que le Canadien est de moins en moins bien positionné pour aller chercher un bon retour. Là. Je veux dire, c'est pas des bonnes circonstances qui se passent présentement. Puis plus t'attends aussi, ben plus il y a de joueurs qui vont être sur le marché en même temps.
Ouais, Manson qui a pas fini le match hier, soit disant passant.
Non, mais c'est ça. Il y a beaucoup de petits risques présentement. Fait que moi, je pense que s'il était changé, ça va plus être vers la date limite des échanges qu'avant. Là.
OK. Donc, selon toi, Alexandre, c'est pas Sean Monahan qui va quitter en premier.
Non, mais pour vrai, je pense que le Canadien a à être plus pressé d'échanger Edmondson que Monahan, là, clairement. Là.
Puis lui aussi, justement, avec le match qui n'a pas fini hier.
Justement.
Oui, c'est ça, exact. Parce que moi aussi, à la base, c'est lui que je voyais.
Mais là, je regarde, admettons, les Penguins de Pittsburgh qui ont perdu les services de Tristan Jarry. Est-ce que Jake Allen devient intéressant dans ce cas-là? Ben, Antoine, t'en penses quoi?
Moi, je pense que c'est en face le plus on parle de ça, je pense pas qu'il va avoir peut-être, ben, du moins, la façon dont les gars sont blessés, je me pose sincèrement comme question s'il y en a qui vont partir, pour être honnête, parce qu'une équipe donnera jamais, puis je pense pas qu'on peut prétendre à donner un choix de première ronde pour un gars qui est blessé, qui a pas joué.
Non.
Moi, je l'ai vécu l'année dernière, je pensais me faire échanger malgré le fait que j'ai eu une blessure. Peut-être que je pensais même que ça allait être plus facile pour certaines équipes de venir me chercher parce que, dans le fond, tu t'embarques sur la liste des blessés à long terme. Donc, tu coûtes rien sur la masse. Puis, je pensais que ça aurait été de comme ça, puis ça n'a pas été le cas. Fait, j'ai tendance à penser que les équipes sont plus frileuses à aller chercher des gars blessés. Puis, parce que c'est pas toi qui l'as soigné pendant un certain nombre de temps. Donc, ça va être compliqué. Puis Edmondson est blessé aussi. Il n'y a personne qui va, sans vouloir offenser personne, il faut quand même se dire la vérité, il n'y a personne qui va vouloir d'Adonov, il n'y a personne qui va vouloir de Hoffman, il n'y a personne qui va vouloir de... on va prendre les gars qui deviennent agents libres.
probablement pas grand monde qui vont vouloir de Drouin, même si moi, personnellement, je l'aime. Il n'y a personne d'autre qui... fait que ça commence à être limité là, tes options de qui tu peux échanger. Puis moi, je me pose la question, est-ce qu'il va en avoir un patron canadien là?
Tu sais, comme je l'ai écrit la semaine dernière dans une de mes chroniques, le Canadien rentre un petit peu dans la période plate de la reconstruction. Tu sais, les joueurs qui avaient beaucoup de valeur, ils les ont échangés l'année dernière. Puis plus on va progresser dans la reconstruction, puis plus si le Canadien décide de garder ses jeunes, ne fait pas comme Chicago là, qui s'en débarrasse à 21-22 ans. Si le Canadien les garde, ben plus le temps va passer, puis moins on va avoir de choix de premier tour là, contre des joueurs qui nous ont coûté des choix de 5, 6 puis 7 aussi. Il faut juste relativiser tout ça. Fait que, tu sais, il reste peut-être Anderson qui peut avoir une valeur là, dans les joueurs.
Mais la longueur du contrat.
De Vorak. Non, mais c'est ça. S'il était facile à échanger, là, ben honnêtement, il serait déjà échangé.
Tu sais, je pense qu'avec ce qu'il y a comme contrat, de toute façon, lui, je m'attends pas à le voir être échangé pendant la saison. Là, je pense que c'est le type de joueur qui s'échange en été. Il reste 4 ans à 5 millions et demi. 4 ans à 5 millions et demi, dans le fond, ça devient un cas où l'équipe se dit, bon, ben j'ai le choix d'aller sur le marché des joueurs autonomes et de faire des offres à un joueur qui va vouloir aller chercher 6 ou 7 ans, ou lui qui vient déjà avec 4 ans de contrat. Donc, tu sais, je pense que c'est pour ça que c'est en été qu'un joueur comme Anderson devient intéressant. Mais les autres, effectivement, à cause des blessures, c'est
une chose qui pourrait arriver. Je dis pas, là, je suis pas du tout un initié là, qui a de l'information privilégiée. Mais historiquement, les équipes qui ont joué la moitié de la saison avec 3 défenseurs recrues ont tendance à échanger un de leurs jeunes défenseurs pour aller chercher des renforts dans une autre position. C'est vraiment arrivé. J'ai regardé, là, je pense que la moitié des cas, c'est arrivé là, depuis 25 ans.
Mais en même temps, le Canadien a échangé Romanov déjà l'été dernier.
Oui, en effet. Mais là, il y en a beaucoup. Est-ce qu'ils vont tenir tous ces défenseurs recrues-là pendant encore longtemps? Je ne sais pas. Il y en a quand même 5 défenseurs recrues là, qui sont passés cette année. Là, puis plus, tu as encore Savard, tu as Matheson. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, mais ils ont plus de besoin d'attaque qu'en défense.
Oui, vas-y, Antoine.
Ben, y en a d'autres qui s'en viennent aussi. Là. Je pense à Mayu. Ouais. J'entends juste des bonnes choses à son sujet. Puis, est-ce qu'il se rapproche du Canadien? Est-ce que l'année prochaine, il va être un régulier? C'est une question à se poser aussi. Là. Puis, est-ce qu'à ce moment-là, tu devrais déplacer du monde? Mais je suis d'accord qu'il y a des contrats. Ça change mieux l'été. D'ailleurs, c'est ce que Jim Neal disait souvent ou nous disait souvent, que la meilleure façon de... puis, les meilleurs échanges, tu le fais l'été parce que c'est là que ça coûte moins cher. Versus si tu le fais à la date limite des échanges, ça te coûte toujours plus cher, puis tu n'as pas forcément le résultat escompté.
Bon, mais écoute, bonne chance à tous ceux qui seront là à 6h le matin sur les ondes d'RDS pour la date limite des transactions. On va vous écouter. Bonne chance, les gars. Bonne chance. On va s'arrêter. On va faire une courte pause pour retour. On va revenir sur le passage de Gary Bettman à Montréal. Il a dit, ben peut-être qu'on pourrait voir le Canadien en Europe. Là, tout le monde a fait 1+1, fait 2. Canadien en Europe, est-ce qu'on parle de Paris? Ah, ben ça tombe bien. Antoine
oui.
est là. On va en parler au retour. Restez là.
Ne manquez pas le balado Relève-toi, présenté par le Regroupement des centres de prévention du suicide du Québec.
Dans l'épisode de cette semaine, Patrick Marsolais reçoit l'ex-patineuse de vitesse et médaillée olympique, Marianne Saint-Gelais.
Mes médailles, je me disais, ils m'apportent absolument rien. J'ai pas plus de vie, j'ai pas plus d'amoureux, j'ai pas plus de famille, j'ai pas plus de scolarité, j'ai absolument rien.
Comment ça va? Nous sommes toujours là, 24/7, partout au Québec. Appelle-nous. Au 1-866-APPEL. Ensemble, tissons l'espoir.
Retour au balado sortie de zone, 4e saison, épisode 36 avec Alexandre Pratt, Guillaume Lefrançois et Antoine Roussel. Bon, Antoine, écoute, on va commencer avec toi. Gary Bettman était de passage à Montréal. Il a dit, ben, faudrait peut-être voir le Canadien aller faire de ces matchs qu'on voit depuis tellement de bon nombre d'années de la Ligue nationale en Europe. Là, on dit, bon, ben... Canadien, on est au Québec, pourquoi pas le Canadien à Paris? Comment tu vois ça, toi? Comment tu perçois ça, le Canadien de Montréal en Europe et à Paris, comment ça marcherait?
Ben, le milieu du hockey, là, c'est plus gros qu'on pense en France. Je pense pas, en termes de personnes qui participent au sport, c'est pas gigantesque, mais les personnes qui sont impliquées ou qui aiment le sport, le hockey en général, il y en a beaucoup en Europe. Et pour un match, je pense que ça serait ou deux, ça serait super plein, le monde serait heureux. Puis ça ferait en sorte que le Canadien agrandirait un petit peu leur tentacule. Puis ça serait phénoménal. Moi, quand j'ai entendu ça, j'étais surexcité. Je me suis dit qu'est-ce que c'est dommage que je joue plus, parce que ça aurait peut-être été contre une des équipes avec lesquelles je jouais, ou Pierre-Édouard Bellemare ou Alex Texier. Donc ça aurait pu être le fun. malheureusement, je suis arrivé. J'ai été là 10 ans. Ça arrive la 11e année. Beau,
mais Paris, ce serait exceptionnel. Puis, il y a déjà eu des matchs disputés dans le désert à l'extérieur. T'sais, on pourrait imaginer un match sur, par exemple, le Champ de Mars là, ou sous la Tour Eiffel. Non, mais ça serait vraiment cool. Mais peut-être deux autres options qui pourraient aussi être populaires. Évidemment, la Slovaquie. On y pense parce que Slavkovski joue pour le Canadien. C'est sûr que ça serait une affiche qui serait très populaire. Mais moi... T'sais, si tu veux faire vraiment un stunt qui fait beaucoup jaser, là, moi, j'irai à Chamonix. Donc, lieu des...
Chamonix ou Chamonix?
Chamonix.
Antoine, Chamonix ou Chamonix? J'y suis allé cet été. C'est un site extraordinaire, okay, qui a eu les Jeux olympiques, sauf erreur, deux fois. Et il y a donc un aréna intérieur qui est vraiment joli, là, qui serait beau, mais qui est relativement petit, mais juste à côté de l'aréna extérieure. Il y a une immense piste d'athlétisme où se sont déroulées les compétitions dans les années 20, les compétitions de patinage, avec le Mont Blanc en arrière, avec l'aiguille du Midi, avec les montagnes. Puis il y a vraiment de la place pour mettre des estrades en quantité assez impressionnante, là. Imaginez un match.
Il y aurait du monde.
Oui.
Ça serait honnêtement
hallucinant. Un match extérieur du Canadien à Chamonix derrière le Mont Blanc.
Mais Batman en a parlé des installations extérieures en disant que c'était
Montréal
compliqué.
Montréal n'a pas d'installation.
Pas Montréal, mais Chamonix, il y en a.
Non, mais c'est ça. Il n'y a rien dit sur Chamonix.
En tout cas, ça serait le fun. Moi, je voterais pour ça. Moi, je serais libre cette semaine-là. Je pense que je pourrais. Je pense que ça s'arrange.
Il y aura un petit coup à mon oreille.
Antoine, je vais te poser une question. Je suis allé jouer en France début du mois de janvier. Je suis allé rencontrer une ligue de garage là-bas. Un peu comme les Boys. Notre ligue de garage est allée jouer là-bas. On est allé à Avignon, on est allé à Marseille, on était supposé aller à Nîmes, finalement, ça n'a pas fonctionné. Il y a eu un problème avec la resurfaceuse. Puis je regardais les gens qui sont là, c'est comme tu le mentionnais, c'est des gens qui sont passionnés de hockey, mais qui n'ont pas joué au hockey dans leur vie. Ça fait peut-être 2 ans, 3 ans qu'ils commencent à un moment donné à jouer au hockey. Comment t'as fait, toi, pour te développer en tant que joueur français?
C'est une bonne question, ça. Puis on pourrait passer un podcast complet à parler de ça. Mais j'ai été chanceux dans le sens où est-ce que je jouais quand j'étais jeune. Je suis né à Roubaix, mais j'ai grandi. J'ai une grosse partie de mon enfance, je l'ai fait à Nantes. Puis il y avait un sport études. Il y avait déjà une structure qui faisait en sorte que si t'étais bon, ben tu pouvais être impliqué. Tu faisais de l'école, ben comme on sait, sport études. Puis ça a fait en sorte que ben je jouais plus souvent. J'ai toujours été dans les bons, mais j'étais pas le meilleur en Europe. Puis à un moment donné, ben j'ai eu une opportunité de quitter pour un meilleur centre de formation. Un peu, ça fonctionne vraiment comme le foot, hein, si on veut, en Europe, le hockey aussi. Donc, tu vas dans une organisation. Puis, je suis allé à Rouen. C'est une grosse organisation en France. Puis, ils avaient un centre de formation où ils accueillaient des athlètes. Puis, on était tous dans des dortoirs, des dortoirs deux par deux par chambre. Puis, ça, c'était super. Je grandissais là avec plein d'autres athlètes de d'autres sports. Ça s'appelle un CRJS, puis Centre de jeunesse et sport. Et il y avait du baseball, du judo, de la natation. Puis, ces centres-là, il y en a plusieurs qui sont éparpillés en France. Puis, si tu viens pas du centre, où est-ce que tu... dans le fond, si tu viens pas de Rouen, ben tu pouvais dormir là. Puis, tu étais logé, nourri, blanchi quasiment. Puis tu passais ton année là. Puis moi, en tant que jeune, c'est phénoménal. Je suis parti de chez moi, j'avais 13-14 ans. Puis j'étais avec mes amis tout le temps. C'est sûr que quand mes parents me laissaient là, puis ils repartaient à Nantes, qui était à 4 heures de route, j'avais toujours une petite larme là, quand même. Là. Mais dès que mes amis y arrivaient, je les séchais vite, puis on s'amusait. Mais cette structure-là a fait en sorte que je me suis développé. Puis à un moment donné, ben, je faisais partie des équipes de France et j'ai grandi là-dedans. Puis à un moment donné, ben, mes parents ils ont décidé de déménager. Puis ça a été une bouffée d'air frais pour moi parce que ça a fait en sorte que j'ai eu la chance de connaître le milieu canadien puis d'avoir plus de compétition si on veut. Mais il n'y a pas une seule route là, qui mène à la Ligue nationale. Pierre-Édouard Bellemare était dans ce club-là aussi. Il était plus vieux que moi. Lui est passé par la Suède. J'ai un de mes amis, Stéphane Dacosta. Il est passé par la NCAA. J'ai un autre de mes amis, c'est Johan Ovitu. Puis ça, c'est tous des joueurs de ma génération qui ont joué dans la Ligue nationale quand même. Fait que on a vraiment une belle génération qui a grandi un petit peu là, tu sais, vous parliez tantôt, tu sais, de Chamonix. Ben, si je ne m'abuse, dans les débuts des années 90, il y a eu des Jeux Olympiques en France, oui. En 92.
À Albertville, oui.
À Albertville. Et à ce moment-là, la France avait eu des gros succès. On avait battu le Canada. Puis il y a eu une euphorie pour le hockey à ce moment-là en Europe. Puis ben, moi, j'ai fait partie de ces bébés-là qui ont grandi après cette euphorie-là, si on veut. Donc, ça pour dire qu'il y a plein de chemins pour aller avec la Ligue nationale, même si t'es français. Mais surtout que ça prend un peu de chance puis de la volonté, en veux-tu, en voilà.
Ouais. Et dis-moi, Antoine, est-ce que tes parents ont déménagé au Canada pour que tu puisses poursuivre ton chemin de hockeyeur?
Ben, je pense pas qu'il ben non. Ils me disent toujours non. Parce que, tu sais, ils voulaient pas que je pense que ça soit juste pour moi. C'est sûr que le fait que je joue au hockey, ça a influé un petit peu. Tu sais, je veux dire, ils sont pas allés au Canada non plus pour rien. Mais ils avaient un projet, eux autres aussi, en tant que couple. Mes parents, ils voulaient avoir un bed and breakfast au Mont-Tremblant. Puis, c'était ça leur objectif de vie. Donc, ils ont tout vendu. Ils ont tout mis ce qui nous restait dans un container. Puis, on est arrivé, on a débarqué du bateau. Ça a pris 2 mois à traverser. Puis, on est arrivé à Montréal, puis 17 ans plus tard, on est encore ici. Mes parents sont encore ici, puis on a vraiment du plaisir. Puis, c'est tellement une place qui a été accueillante pour nous autres que, écoute, j'y reste au Saguenay dorénavant, mais le Québec, en général, c'est un terreau fertile pour les immigrants. Puis, c'est complètement fou de pouvoir s'installer puis s'imprégner de la culture aussi rapidement avec des gens accueillants comme on a ici. C'est fait tout simplement phénoménal. C'est pas quelque chose que t'as partout dans le monde.
Écoute, Antoine, je trouve ça vraiment intéressant, mais comme je te dis, moi, quand je suis allé là-bas, j'ai vu des gens puis passionnés, puis leur problème, c'était de se trouver de l'équipement. L'équipement, c'était pas disponible, ça coûtait les yeux de la tête. Ils regardaient nos patins, et ça. Tu sais, t'es obligé de faire des heures de route pour aller trouver des bâtons. Ils veulent jouer, mais ils ont pas d'équipement parce que là-bas, l'emphase est mise sur le foot, est mise sur le soccer, pas mise sur le hockey, mais pas du tout. Fait que faut que tu sois un peu hurlu-berlu passionné pour faire ça dans une ligue de garage. Comprenez-vous le principe, là? C'est, écoute, vraiment, moi,
Faut que tu sois craqué, là.
Exactement.
C'est pas la ligue de garage, généralement, c'est des clubs de foot. Puis c'est vrai que c'est. Il y en a pas beaucoup. Je pense qu'il y a une centaine de patinoires en France. Puis c'est pas beaucoup là, pour une population de 60 millions ou un petit peu plus. Là. Puis je sais même pas combien il y en a au Québec, mais chose est sûre, il y a au-dessus de 100 patinoires extérieures, ça c'est certain.
Mais c'était le fun. En tout cas, dans une soirée, j'ai montré la glace que j'avais en arrière de chez nous. Les gars, c'était incroyable, t'as ça chez vous. Je dis, ben oui.
Wow. Mais tu sais que dans plusieurs pays, là, pour s'équiper, les gens, en fait, ils misent sur les pilotes d'avion. Des pilotes d'avion qui jouent dans les ligues. J'avais interviewé des gens au Qatar. Là. Il y a une ligue de garage au Qatar. Puis c'est ça, mais pour avoir de l'équipement, il n'y a aucun magasin qui vend du sport là-bas. Mais je pense que c'est la même chose en Thaïlande ou des pays comme ça. Alors, il y a des pilotes d'avion qui jouent dans la ligue. Puis eux, quand ils s'en vont ailleurs,
ben,
t'as besoin de gants, ouais, OK, j'ai besoin de patins, j'ai besoin de gants. Ça, puis les militaires américains qui, eux, il y a un service de poste en fait à l'intérieur là, du système américain où ils peuvent se faire livrer du matériel à distance là, qui vient des États-Unis directement par la malle militaire. Donc, c'est souvent comme ça, en fait. Souvent qu'en France, il y a des...
C'est tellement vrai, ça, parce que quand j'étais jeune, je venais quasiment à partir de 8-9 ans, à toutes les années, faire un camp d'entraînement. Puis on allait à Amqui. C'était un camp de hockey qui était organisé là-bas. Puis je me souviens que quand j'allais là, j'avais plein de mes amis qui me disaient, ou qui parlaient à mes parents surtout, ils disaient, « Ah oh, là, ça nous prend tel patin, des paires de coudes. » Fait que là, on revenait, on était comme des dromadaires, on repassait les doigts, puis on était chargés comme des bourriques. Puis là, on essayait de ramener tout ça à tout le monde, puis tout le monde était bien heureux, ça c'est certain.
Bon, ben clairement, écoute, ça montre le profil de passionné qu'il y a là-bas en France pour le hockey. Puis, je pense que tout le monde serait bien passionné ici à Montréal si le Canadien jouait à Paris. En tout cas, j'entends des gars qui diraient « OK, moi je suis disponible, ben, aller couvrir ça là-bas. » Un bon petit week-end là-bas, ça serait fort intéressant. Bon, ben messieurs, on va conclure ce balado là-dessus. Je dis un gros merci à Guillaume Lefrançois, merci d'avoir été avec nous.
Merci, messieurs.
Merci, Alexandre Pratt. Toujours un plaisir, Alexandre.
Bon week-end.
Merci beaucoup, Antoine. C'était fort intéressant d'entendre tes propos aujourd'hui. Merci, Antoine.
Merci, les gars. C'était le fun de vous jaser aussi.
Merci, salut. Au revoir. Donc, c'est ce qui conclut ce balado Sortie de zone, épisode 36. On se parle en début de semaine prochaine.